Test 1, 2, can you hear me, Jen? Test 4, 2.
You can be heard on the bridge.
Thanks. We are just waiting.
Alyssa Cooper prend la parole. Nous attendons les gens qui prennent encore le café. Nous allons prendre dans quelques minutes.
Okay, we're gonna.
Alyssa Cooper prend la parole. Nous allons reprendre et nous allons parler un petit peu plus sur la proposition de transition. Il y a un mail de Patrick sur la liste de diffusion avec une suggestion par rapport à la section concernant l'histoire. Je vais donc passer la parole à Patrick. Merci Alyssa. Patrick Fortson au micro. Lynn et moi-même, nous avons examiné donc le texte. Nous avons réécrit le deuxième paragraphe du texte. Nous avons donc suggéré, à partir de ce que Joe avait dit, que ça ne fasse pas partie du processus ni de l'introduction. Donc, nous avons copié le texte que nous avions écrit auparavant avec Lynn et nous avons essayé de voir ce qui n'avait pas été inclus en ce qui concerne la coopération et la coordination. Et donc, il y a quelques changements que je voudrais vous montrer. Tout d'abord, comme il ne s'agit pas d'un processus, nous avons parlé de la façon dont nous allions parler des communautés opérationnelles. Et notre première suggestion, c'est que dans ce texte, nous ne devons pas parler communauté opérationnelle, mais plutôt de communauté tout court, car les communautés, nous les avons découvertes en tant que ICG ou en tant que ICG quand nous avons lancé le processus. Et il y a également d'autres communautés, outre l'IETF ou les ERIER et l'ICANN qui ont demandé à l'IANA de faire des choses. Donc, la deuxième partie, c'est dans le deuxième paragraphe. L'avant-dernière phrase dit « Si cette ressource est opérée par des politiques définies par une communauté, donc c'est un texte que nous avons ajouté. Nous voulons dire que l'IANA prend en charge plusieurs processus et chacun de ces processus est régi par une politique élaborée par une communauté. Et ensuite, on n'a pas grand-chose à dire par rapport au reste du texte. On l'a juste recopié. Et Joe avait suggéré que le dernier paragraphe n'a pas de relation avec la coordination et la collaboration. Et donc, il finit avec le contexte historique. Et peut-être qu'il faudrait le refaire ou le réécrire, ou peut-être que c'est bon de dire qu'il y a une relation, etc., etc. C'est un petit peu l'histoire derrière la façon dont on a rédigé ce texte. Voilà, pour votre information. Alyssa Cooper prend la parole. Merci, Patrick, pour cette explication. Elle est très utile. J'ai quelques questions à poser. La première. Je suis d'accord avec toi pour ne pas utiliser le mot communauté opérationnelle. Mais je vois qu'il apparaît quand même au quatrième paragraphe. Patrick Folsom. Dans ce cas, c'est une erreur qu'on va corriger. Alyssa Cooper, très bien, c'était ma première question. Deuxième question, le dernier paragraphe, comme vous l'avez dit, il est dans le paragraphe 55 à 58, donc je pense qu'il faudrait le garder dans un des endroits, des deux endroits. Patrick Folsom, donc je propose de l'éliminer ici. Je vais donc l'éliminer ici et le secrétariat vous enverra une nouvelle version. Alyssa Cooper, reprend la parole. Ma dernière question, troisième paragraphe. Quand j'ai essayé d'adapter cela pour la proposition, j'ai fait quelques modifications. J'ai éliminé le Terranode contract, Terranode contrat, parce que le contrat de Terranode, parce que c'était hors contexte. Folsom, je vois ce que vous avez fait, mais je pense que nous avons gardé le terme contrat parce que du point de vue personnel, je pense qu'il est important de dire qu'il y avait un contrat avec le gouvernement des États-Unis, que ce n'était pas uniquement un projet de recherche. Et c'est ce qu'on est en train de dire. Alors, le nom du contrat, peu importe, mais j'aimerais que l'on garde le mot contrat. Lisa Cooper, je pense qu'autrement, il faudrait expliquer ce que c'est que Terranode. Folsom, dans ce cas-là, nous pourrions ne pas parler du nom du contrat, mais au lieu de dire projet de recherche, on pourrait dire contrat de recherche. Voilà, Alyssa Cooper. D'accord, alors vous pouvez le changer dans votre version, s'il vous plaît. Très bien. J'ai Joe et puis Cavus. Joe Aladef au micro. Je pense que c'est très utile. C'est très bien. Le seul point que j'ai suggéré, Patrick, c'est dans l'avant-dernier paragraphe que l'on ne dise pas les relations, mais plutôt des mécanismes de coordination. Comme ça, nous allons pouvoir aborder les deux sujets, la coordination, parce que quelque chose de ad hoc ne veut pas forcément dire qu'il y a une méthode de coordination établie. Patrick Folsom, très bien, j'ai bien pris note, merci. Alyssa Cooper, Cavus. Cavus a resté au micro. Merci, Patrick. Je suis presque d'accord avec vous en ce qui concerne la référence à la communauté. Cependant, ça fait plus d'un an qu'on parle des communautés opérationnelles. Et c'est pour cela que je suggère que lorsqu'on parle des communautés, on ajoute y compris les communautés opérationnelles, parce qu'on en a tellement parlé dans nos discussions par rapport à l'ICANN, l'ICG, le CCWG. Donc, je suis d'accord avec vous, mais au moins, à la première référence, à la première occurrence du mot donc communauté, je suggère de mettre y compris les communautés opérationnelles. Patrick Folsom, permettez-moi de voir si j'ai bien compris votre suggestion. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut essayer de simplifier la terminologie. Ce que je veux dire, c'est que dans ce document, le terme communauté opérationnelle se trouve dans la section qui suit, qui concerne les processus. Ma question est la suivante. Si on introduit communauté opérationnelle ici, ce serait la première occurrence du terme et que ensuite, dans l'autre partie, on parle directement de communauté opérationnelle, ce serait confus. Donc, d'abord, on parle de communauté en général et ensuite, on parle des communautés opérationnelles. Quand vous dites faire une référence, ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes d'accord avec la référence qui est faite plus loin dans le document qu'à vous, Saraste? Je dis qu'il faut faire référence aux communautés opérationnelles. Je ne veux pas que l'on sente que cette communauté soit exclue. Je veux garder un lien entre la communauté, quand on parle de manière générale, et la communauté opérationnelle. La première fois que l'on parle de communauté, que l'on fasse une référence aux communautés opérationnelles. La façon de le faire, c'est à vous de le déterminer, mais soit dans ce paragraphe ou ailleurs, comme vous voudrez. Patrick Folsom, merci beaucoup. Je vais essayer de trouver un moyen de refléter votre inquiétude, de répondre à votre inquiétude. Merci. Alyssa Cooper, Daniel. Daniel Carambert au micro. Merci, Alyssa. Je suis d'accord avec les suggestions qui ont été faites et je suis d'accord avec le détail qui est fourni dans le deuxième paragraphe. J'ai une suggestion supplémentaire pour clarifier un petit peu. On parle des ressources de temps, on parle des registres, donc le remplacer au lieu de ressources, parler de registres. Parce que l'on sache quand on parle des registres, c'est plus clair. Patrick Folsom, bien noté. Ross Mundy, je vais être en désaccord avec Daniel. Les registres, c'est un mécanisme pour garder l'information, mais l'important, c'est l'information elle-même, les identificateurs uniques. Et donc, il faut penser à une façon de l'exprimer clairement. Et je suis d'accord pour dire que les registres sont, le registre est le terme utilisé dans cette communauté, mais ce n'est pas un terme qui est largement utilisé en dehors de cette communauté. J'espère que l'on pourra reformuler cela de manière plus claire. Je pense qu'on pourrait en discuter sur la liste de diffusion, car il s'agit d'une section très importante, parce qu'on donne un aperçu, un contexte pour les gens qui ne sont pas très au courant de cette histoire. Et il est important que l'on fasse très attention aux mots que l'on utilise. Paul Swam prend la parole. Je vais vous poser une question, Russ. Vous trouvez que c'est important de faire une différence entre la ressource partagée qui est coordonnée à travers les registres, où sont sauvegardés, comment les ressources sont partagées, c'est ce que vous voulez dire? Russ Mundy prend la parole. En ce qui concerne la terminologie utilisée ici, ressources partagées, je ne pense pas que ce soit une bonne description, parce que les ressources elles-mêmes, de manière collective, doivent être identifiées de telle sorte qu'elles ne puissent pas être utilisées par mégarde par plus d'une partie. Et donc, ce mot de ressources partagées n'est pas tout à fait exact parce que c'est une ressource unique. Donc, le mot partagé pourrait porter à confusion pour ceux qui n'appartiennent pas ou qui ne sont pas très au courant de ce qui se passe au sein de la communauté. Je pense que identificateur unique pourrait être une meilleure façon de formuler cela. Mais peut-être que ce n'est pas le meilleur terme pour la communauté en général. Alan Barrett prend la parole. Pour la partie concernant l'histoire, je me demande s'il faudrait peut-être ajouter quelques dates, par exemple le jour où les différentes dates qui sont importantes dans ce processus. Patrick Folstrom, j'en prends note. Je vais essayer d'ajouter cela et vous envoyer donc le texte corrigé. Donc, passons aux intervenants qui veulent prendre la parole, peut-être. Alyssa Cooper, il n'y a personne d'autre sur la liste d'intervenants. Donc, voilà. Est-ce que vous pourriez faire ça, Patrick? Patrick va envoyer donc une version modifiée pour que vous puissiez la voir, l'examiner. Et nous allons finir cela jeudi. Bien. Je pense que nous pouvons continuer avec notre proposition de transition. J'ai un mail de Daniel concernant la façon dont nous décrivons les éléments interdépendants, les interdépendances. Je vous invite à lire le mail de Daniel, où l'on parle des endroits où l'on parle des interdépendances. Je vous prie de bien vouloir répondre à cet email. Et en fonction donc de ce que vous allez écrire, je vais essayer donc d'en faire une synthèse avant jeudi, pour que l'on reparle jeudi ou vendredi. Donc je vous prie de regarder ou de lire cet email. Demi prend la parole. Un commentaire très bref. Ce serait peut-être intéressant d'inclure une note dans le document pour la NTIA en ce qui concerne le livre blanc ou le livre vert, parce que c'était le début de la transition de l'ICANN. Ce serait utile, merci. Goldstrom, Alyssa Cooper, qu'est-ce que vous en pensez? Référence au livre blanc, au livre vert. Patrick Folstrom, au micro. On pourrait l'ajouter, oui. Alyssa Cooper, très bien. Nous allons donc passer au point suivant, à savoir la séance de discussion que nous allons tenir demain. Nous avons une séance de discussion demain. Et l'heure? À midi, une séance d'une heure. L'idée de cette séance de discussion est de consacrer une quinzaine, une vingtaine de minutes maximum, présenter à la communauté le travail que nous avons fait. Voilà, nous voyons sur l'écran donc, les transparents. Donc, faire un aperçu, donner un aperçu très bref de tout ce qui a été fait après la consultation publique. Ensuite, il y a quelques transparents par rapport aux commentaires eux-mêmes. Vous voyez, donc c'est juste une version épurée du document que nous avons utilisé aux États-Unis, le nombre de commentaires que nous avons reçus, soutien à la proposition, le nombre de personnes qui étaient contre. Nous allons présenter également les différents sujets qui ont été abordés par les commentaires publics. Et ensuite, très brièvement, parler de la relation entre les commentaires et les critères de l'NTIA. Et ensuite, c'est ce que je voulais faire avec vous. L'idée ici, c'est de dire que nous peaufinons notre proposition en attendant les résultats des autres réunions à la fin de la semaine. Expliquer un petit peu ce que nous envisageons de faire à partir de la discussion que nous avons eue ce matin. Et ensuite, l'état de situation de l'ICG. C'est là où nous allons dire que nous allons rester un organe de coordination jusqu'au mois de septembre et que nous envisageons de demander à la communauté quel serait pour nous, quel serait notre rôle au niveau de la mise en œuvre. Question-réponse après. Et nous devons établir qui sera la personne qui va être le président et les coprésidents pour présenter les commentaires, etc. Qui est 7 ou 8 personnes pendant la période de questions-réponses. Y a-t-il des commentaires? Je vois qu'il y a Daniel qui souhaite prendre la parole. Daniel Carambert prend la parole. C'est un bon plan. Il me pose un peu problème. C'est le fait que l'on dise que l'on envisage de demander à la communauté quel sera notre rôle au niveau de la mise en œuvre. Je ne pense pas qu'on ait un consensus par rapport à cela. Je pense que l'on pourrait dire que si les communautés souhaitent que notre rôle soit si quelqu'un souhaite que nous ayons un autre rôle, cela pourrait avoir lieu. Mais je ne pense pas que l'on doive dire que l'on va lancer une consultation ou que l'on va demander aux communautés opérationnelles que l'on va leur poser cette question. On n'a pas de consensus par rapport à cela. Alyssa Cooper, très bien. Paul Wilson, au micro. Je pense qu'on en a parlé avant. Et c'était résolu. Donc, la diapo où l'on parle du soutien ou de l'opposition à notre proposition dans la consultation publique, comment nous établissons le soutien ou le refus? Alors, quel était le critère pour évaluer s'il s'agit du soutien ou pas? Parce qu'il pourrait y avoir des questions visant justement le fait de savoir comment nous avons déterminé le soutien ou l'opposition. Ce serait, outre les commentaires qui sont explicitement de soutien ou d'opposition, que l'on pourrait dire quelque chose. C'est un peu polarisé que de décrire les réponses de cette manière-là. Alyssa Cooper, ce que l'on veut refléter dans notre diapo, c'est qu'il y a aussi une partie en vert. Donc, vous voyez qu'il y a des commentaires qui, de manière générale, soutenaient la proposition. En rouge, les commentaires qui, de manière générale, se montrer contre la position. Et puis, il y a une partie en vert qui n'est pas sur la diapo. Alors, Paul Wilson prend la parole. 61% en faveur. Est-ce que c'est des commentaires qui explicitement affirment qu'elles sont pour la proposition et même chose pour les commentaires qui sont contre? Je veux dire, s'il y a, par exemple, un commentaire qui a 3 commentaires contre la proposition ou 3 problèmes identifiés, est-ce que cela, c'est pour ou contre? Alyssa Cooper, si ce n'est pas clair, c'est rangé dans la partie en vert. Et si c'est clair par rapport au soutien ou à l'opposition, c'est rangé dans les autres 2 couleurs. C'est le même schéma que l'on a inclus dans notre proposition, dans la partie 0 de notre proposition. Très bien, je pense que Cavus souhaitait prendre la parole. Allez-y, Cavus. Excusez-moi, je n'ai pas encore Adobe Connect parce que je suis entre 2 réunions. Je me sens pas à l'aise pour parler de notre rôle. Voulons-nous créer un rôle pour nous-mêmes? Je préfère parler de mandat ou de la portée de notre travail, mais non pas de rôle. Car on pourrait donner l'impression que l'on cherche à avoir un autre rôle différent de celui que l'on a. Je préfère parler de mandat. En ce qui concerne le fait de poser ou pas la question aux communautés, je n'ai pas d'avis par rapport à cela, mais je ne suis pas très à l'aise avec cette référence à notre rôle. Je préfère parler de mandat ou de portée de notre travail, ou champ d'action de notre travail. Alyssa Cooper, bien compris, je pense que c'est cohérent. Marie, Marie Dumas au micro, Cavus a abordé une de mes remarques. Je voulais demander justement si la communauté nous demande, non pas nous demandant à la communauté, mais si la communauté nous demande ce qui va suivre, il faudrait penser à la réponse que l'on va leur donner. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous ne demandons pas à la communauté, mais au moment de la discussion avec la communauté, si quelqu'un nous pose la question, est-ce que vos activités vont finir ou votre programme va finir une fois que vous allez présenter la présentation, la proposition à l'NTIA, qu'est-ce que nous allons y répondre? Alyssa Cooper prend la parole. Je pense que à ce moment-là, on va dire que nous allons rester organisés en tant que groupe et qu'il y a des discussions en cours par rapport à quelle serait la portée de notre travail à l'avenir. Vous êtes d'accord? Manal. Manal prend la parole. Merci, Alyssa. Juste pour clarifier. Désolée, je n'étais pas dans la salle hier, mais j'ai constaté qu'il y a un point d'action qui dit qu'il faudrait rédiger une question aux communautés opérationnelles par rapport au rôle de l'ICG pendant la phase de mise en œuvre. Et maintenant, j'entends dire qu'il n'y a pas de consensus par rapport à cela. Donc, je suis un petit peu confuse par rapport à la conclusion que l'on peut tirer de ces discussions. Alyssa Cooper, au micro. Hier, il y avait des membres de l'ICG qui souhaitaient lancer une consultation à la communauté pour voir s'ils pensaient que le rôle devrait jouer un rôle dans la phase de mise en œuvre. Il y avait d'autres personnes qui pensaient qu'il faudrait leur poser la question différemment, en disant qu'il y a quels sont les rôles que l'on pourrait jouer en leur donnant quels sont ces rôles-là, et d'autres gens qui souhaitaient ne pas poser la question à la communauté. Nous allons reprendre ces discussions à la fin de la semaine, et c'est pour là que demain, on pourra dire que des discussions sont en cours, mais qu'il n'y a rien de concret par rapport à cela, que rien de concret n'a été décidé. Joe Aladef, ma question concerne l'envers du schéma. Est-ce que c'est là où l'on met les gens qui n'ont pas de commentaires, qui sont opposés à la transition de manière conceptuelle, mais n'ont pas fait de commentaires? Non, dit Alyssa, cela serait dans la partie en rouge. Joe, je veux dire par là, je pense que dans le document de synthèse, nous avons dit que ces commentaires-là étaient traités d'une façon spécifique. Bien sûr qu'il y a des gens qui s'opposent au concept dans son ensemble et cela veut dire qu'ils s'opposent à la proposition. Ils ne vont pas accepter la proposition, donc je ne vois pas pourquoi on doit les mettre en la partie en rouge. Alyssa Cooper, je voudrais voir ce que les autres membres de l'ICG pensent par rapport à cela. Nous pouvons revenir aux indicateurs pour revoir un petit peu les chiffres, mais si vous avez des idées par rapport à cela, je vous invite à lever la main sur Adobe Connect. Walt Woolrich, en ce qui concerne la question concernant la mise en œuvre, les discussions qu'on a eues hier, j'ai cru comprendre qu'on était plus ou moins d'accord sur le fait que l'initiative devrait venir des opérations, des communautés opérationnelles. En ce qui concerne la mise en œuvre, et je pense que cela devrait être communiqué pendant notre séance de discussion. Je pense que c'est cela qui pourrait déclencher la discussion, à savoir que nous croyons que notre mandat devrait faire l'objet d'une discussion de leur côté et que nous aimerions écouter leur avis en ce qui concerne cela. Alyssa Cooper, oui, je pense que c'est logique. On peut être franc avec la communauté. Au sein de l'ICG, nous avons beaucoup d'opinions par rapport au mandat de notre travail en matière de mise en œuvre, mais nous sommes plus ou moins d'accord sur le fait que l'initiative doit venir de la communauté. Est-ce que cela vous semble raisonnable? Très bien. Lynn Saint-Amour. Je suis d'accord avec le commentaire de Paul. Je pense que nous devrions revoir cela plus en détail. Et je pourrais le faire sans problème, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui n'ont pas dit pourquoi ils s'opposaient à la proposition. Et je ne sais pas si cela est valable ou pas, mais je serais ravie d'aider à revoir tout cela. Alyssa Cooper, au micro, est-ce que l'on pourrait considérer cela comme un point d'action qui sera réalisé par Lynn? Elle va réviser ou réexaminer les commentaires. Voyons, comment je peux reformuler cela? Vérifier ou ajuster la ventilation donc des commentaires dans les différentes catégories, y compris le fait de séparer l'opposition à la transition et l'opposition à la proposition. Pour jeudi ou pour vendredi, si vous êtes d'accord. Très bien, merci.
OK.
Très bien, Jean-Jacques. Jean-Jacques prend la parole. Merci, Alyssa. Je n'avais pas vraiment fait attention à ce schéma avant, mais puisqu'on l'a sur l'écran maintenant, on est forcé à le regarder. Il semble qu'il est trop noir et blanc, il n'y a pas de gris entre les deux. Soit vous êtes d'accord, soit vous êtes en désaccord. Mais puisque je faisais partie moi-même de l'équipe qui a examiné les commentaires publics, il y avait des commentaires sans doute qui étaient plutôt gris, plus ambigus, moins affirmatifs, négatifs. Donc lorsqu'on voit le résultat final comme bleu, rouge, noir, blanc, ça me frappe un peu, vous voyez, parce qu'il y avait des commentaires, en fait, qui n'avaient même rien à voir avec la transition. Alors, je pense qu'il faudrait que l'on ait une catégorie qui montre cela, parce que c'était 20% des commentaires. Je n'ai pas la proposition sur moi, mais est-ce que vous croyez qu'il y aurait moyen de montrer que ce n'est pas soit oui, soit non? Dans la proposition elle-même, il me semble qu'il y a une rédaction qui montre cela, en fait. Il faudrait le revoir, mais je suis complètement d'accord. C'est vrai que c'est une question, en fait. C'est pour montrer aux personnes, en termes généraux, quel était le résultat des commentaires. Et c'est bien de pouvoir leur montrer en image, mais on perd beaucoup de détails avec ce type de schéma. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut faire. C'était justement le résultat des discussions de Los Angeles, mais en fait, on pourrait le présenter avec des mots qui donnent un peu plus de contexte pour que ce soit plus détaillé. Oui, allez-y. Jean-Jacques Subrenin. Franchement, je pense qu'à ce point-là, ce serait plus sensé d'avoir un commentaire écrit, un petit paragraphe qui montre que d'après notre décompte, la plupart des commentaires publics soutenaient clairement, etc. Et qu'il y avait, pendant les minorités ou une minorité claire, entre parenthèses, qui disent moins de 20% qui s'opposaient ou une rédaction de ce type. Parce que le problème avec ce type de schéma est qu'il y a des personnes qui ne vont penser qu'à ça par la suite. Donc on pourra se dire, bon, c'est pas un problème, on a 20%, c'est des choix. Hein. Puis il y aura des personnes qui vont dire, une opposition de presque 20% est quand même significative, on ne peut pas la laisser passer. Donc je ne suis pas d'accord avec ce type de schéma. Alyssa prend la parole, d'accord. J'essaie donc de trouver des mots. On va lire ce qui était dans la proposition. On dit la plupart des commentaires, 61% en termes généraux, soit soutenaient la proposition, soit exprimaient leur soutien, accompagné par des questions, demandes de précision ou critiques. Le reste des commentaires, soit s'opposaient à la proposition, soit s'opposaient à la transition de la supervision de Diana en termes généraux, soit ne parlaient pas de cela. C'est tout ce qu'on a dans la proposition. Donc, on pourrait peut-être dire cela et le présenter avec le graphique qui accompagne, ou alors on peut tout simplement ne pas présenter le graphique, ne pas présenter ce schéma. Je vous remets dans la liste d'intervenants. On a maintenant Daniel. Daniel Carmer prend la parole. Merci, Alyssa. Je suis avec Jean-Jacques. Moi aussi, je trouve qu'il ne faudrait pas utiliser ce schéma. On ne devrait pas faire ce type de récapitulatif visuel. Ce serait également, à mon avis, une bonne idée d'ajouter une nouvelle catégorie qui dise que c'est des personnes qui s'opposaient à la transition en général et que seulement Une fois qu'on aura fait ce récapitulatif, on pourrait considérer de présenter les statistiques à ce sujet. Et c'est pareil pour la proposition. On devrait le modifier dans la proposition plutôt que de présenter cela ainsi demain. Parce que je suis complètement d'accord avec Jean-Jacques. Je pense que c'est ça que les personnes vont retenir et c'est pas le bon résultat, c'est pas la réalité. Alissa prend la parole. Oui, d'accord. Milton Müller prend la parole. Il me semble qu'une fois qu'on fait la distinction entre les personnes qui s'opposent à la transition et les personnes qui s'opposent à la proposition, on aura résolu la plupart de ces objections et on devrait de toute façon utiliser le schéma parce que c'est une image qui transmet clairement le panorama général parce que les personnes qui s'opposent à la transition, en fait, les personnes qui ont un intérêt ici à la transition ne doivent pas être comptées, bien sûr. Donc, cette zone rouge, en fait, sélectionner ces personnes, ce ne serait pas un problème parce qu'elles ne s'opposent pas à la transition générale, à la proposition, mais à la transition générale où on ne peut pas les compter. Alissa prend la parole. Cavus, oui, je soutiens ce qu'ont dit les deux orateurs précédents. Alissa prend la parole, d'accord. Alors Milton veut le montrer, Daniel veut pas que ce soit montré. Alors qui est-ce que vous soutenez? Cavus prend la parole. Non, pardon, je voulais m'opposer à Daniel, mais je suis pas d'accord avec Milton, en fait. Je pense que ce type de schéma pourrait être déroutant pour les personnes parce que l'opposition a un différent niveau d'opposition. Des fois, c'est partiel, des fois, c'est total. Donc, ce serait mieux d'avoir un paragraphe plutôt que d'avoir ce type de schéma. Ça pourrait être utile pour d'autres buts, mais pas pour l'engagement avec la communauté. Ça pourrait les confondre ou alors on essaie de montrer à la communauté qu'on a le soutien de la communauté pour tout ce qu'on a fait. Donc, on devrait peut-être mieux ajouter un paragraphe qui explique les différentes catégories d'opposition, les différents niveaux d'opposition, mais pas ce type de schéma. Alors, je me corrige. Merci. Alissa prend la parole bien. Alors, il nous reste 4 minutes de plus et il va falloir qu'on finisse. Il faut que l'on prenne des décisions là-dessus parce que suivant les commentaires sur le chat et selon la disponibilité de Lynn, on pourrait essayer de diviser ce schéma en plus de catégories pour qu'il soit plus proche du niveau de détail de nos évaluations. Plutôt que d'avoir du blanc et du noir, on pourrait avoir différents niveaux de soutien, différents niveaux d'opposition, opposition à la transition en général, aucune de précédente. On pourrait faire cela et essayer de l'évaluer cet après-midi et voir si vous êtes d'accord avec ça. Si vraiment vous ne pourriez pas tolérer que ce soit montré demain, faites-le nous savoir à travers la liste. Autrement, vous pourrez nous le faire savoir. Vous nous dites que vous voulez plutôt avoir une explication qui le décrive. D'accord? Je voudrais savoir quelles sont les deux options que vous voudriez suivre. Option numéro 1. C'est de réviser cette image, d'apporter davantage de détails, de la faire circuler à travers la liste de diffusion. Et donc, à moins que quelqu'un dise absolument non, on va la montrer demain. Option numéro 2, nous allons rejeter cette diapo dès maintenant et rédiger une description qualitative. Qui soutient l'option 1? Sur le chat, si vous aimez l'option numéro 1, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Alors, j'ai 9 à peu près qui soutiennent l'option numéro 1. Qui soutient l'option numéro 2? 2. Donc, je sens que le consensus approximatif serait de faire le choix de l'option numéro 1. Joe dit, bon, peu importe, les deux. Donc, nous allons publier une version révisée de cette diapo cet après-midi sur la liste. Et si c'est vraiment intolérable, on va publier une nouvelle version qui n'aura pas le schéma. D'accord? Donc, nous voilà à la fin de notre séance. On n'a pas pu entrer dans le détail du document de récapitulatif des commentaires publics. Mary, demain, prend la parole. Je dirais que peu importe ce qu'on décide, les personnes vont toujours faire le calcul eux-mêmes et ils vont voir qu'il y a 30% à peu près de personnes qui s'opposent. Alors, soit on le fasse comme texte ou comme schéma, ça va donner le même résultat. Ça revient toujours au même. Ils vont toujours penser à ça et ils vont soulever la question de toute façon. Alice prend la parole. Oui, on ne peut pas changer de résultat. C'est vrai que les numéros ne vont pas changer. On peut juste les présenter différemment. D'accord. Alors, nous allons prendre ce document récapitulatif soit jeudi, soit vendredi. Je vous encourage vraiment à relire ce document, à envoyer des commentaires à la liste. Parce qu'on n'a pas beaucoup discuté de cela. On s'est simplement réuni avant cette réunion. Donc, pour le publier. Alors, si on vise à le conclure, il faudrait vraiment que tout le monde le lise et le considère. Pour jeudi, je vous demande d'énumérer quels sont les points que nous allons reprendre. La liste est à chaque fois plus longue. Il nous reste plus d'actions à suivre aujourd'hui. Donc, on va revenir sur la proposition de transition, y compris le répertoire de la mise en œuvre. D'autre part, on va travailler sur la portée de la période de mise en œuvre et d'autres réflexions sur la semaine de l'ICANN. On essaiera de rédiger un document récapitulatif. Et beaucoup de ce travail, en fait, aura lieu vendredi, parce qu'on n'a que 2 heures jeudi. Kavous Arasté prend la parole. Oui, si j'appartenais à la communauté, je poserai les questions suivantes à l'ICG. Est-ce que vous avez une date de remise de votre proposition à la NTIA après les discussions de ICANN 54? Question numéro 2. Étant donné les discussions approfondies au sein du CCWG et étant donné les propositions, les discussions de l'ICANN, est-ce que vous prévoyez des difficultés pour pouvoir le faire? Merci. Alice prend la parole. Alors, vous dites que c'est les questions auxquelles vous vous attendez, que vous pensez recevoir. Kavous prend la parole. Non, non. La question, c'est quelle serait la réponse de l'ICG pour ces questions? Alice prend la parole. On n'a pas de date spécifique. Plutôt, on suit de près le processus au sein du groupe de responsabilité. Et je ne pense pas que l'on ait anticipé des difficultés. On attend simplement. Lynn? Lynn Saint-Amour prend la parole. Que ce soit clair, j'essaierai de réviser les hiérarchies de commentaires et voir les niveaux. Et je pense que peut-être on pourrait déjà anticiper quelles seront les questions posées demain. Alors, il faut qu'on soit absolument d'accord sur les réponses qu'on compte donner. Il faut qu'on soit d'accord sur l'impact que nous pensons que le processus du CCWG aura sur nos propres délais. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on se mette d'accord sur des réponses. Je vous appelle à vous proposer comme volontaire pour essayer de rédiger ces réponses et trouver ces questions. Alice prend la parole. Oui, c'est vrai que ce serait très utile d'avoir des personnes qui travaillent dessus. Il y a d'autres remarques? Bien. Alors, nous allons nous réunir encore jeudi. Ah, Manal, oui. Manal prend la parole. Juste pour parler des commentaires de Joe sur le chat, si on demande aux personnes qu'elles complètent les parties importantes qui manquent au rapport, on avait des personnes qui ont dit qu'en fait, on manquait des parties dans le résumé des commentaires publics et qu'on ne pouvait pas avoir le texte final à rapporter. Donc peut-être qu'on pourrait travailler ensemble pour inclure cela dans les discussions de jeudi ou vendredi. Merci. Trick Falstrom prend la parole. J'ai moi-même une question pour les membres de l'ICG. Et c'est si, parce que nous, en tant que coprésident, nous croyons qu'il va nous falloir plus de temps vendredi pour la réunion. Jeudi, ce n'est qu'une réunion courte. Et donc, il nous faut absolument nous réunir vendredi, il nous semble, bien qu'il faille qu'on finisse la réunion plus tôt. Malheureusement, je sais qu'il y a des personnes qui doivent partir, mais bon, ils vont devoir rester. Alice prend la parole. On s'excuse, hein? Bien. On vient de finir, alors. Merci à tous.